écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 28 novembre 1947, l'avion du général Leclerc s'écrase dans le Sahara. En 1947, Philippe Leclerc de Haute-Cloque est un héros national. À seulement 45 ans, le libérateur de Paris et de Strasbourg est général d'armée. Titulaire des plus hautes décorations, il vient de rétablir l'autorité française en Indochine. Après avoir refusé la fonction de haut-commissaire à Saïgon, il est nommé inspecteur général des forces armées en Afrique du Nord. Au matin du 26 novembre, il s'envole pour l'Algérie depuis l'aéroport de Villacoublay. Il est accompagné de 6 membres de son état-major. Son avion, un B-25 Mitchell, rebaptisé Tailly II, est piloté par le lieutenant François Deluc. L'après-midi et le lendemain sont consacrés à des manœuvres interarmées. Le 28 novembre, Leclerc gagne l'aérodrome d'Oran. Le B-25 décolle à 10h17 pour Colombe-Béchard, aux portes du Sahara. Originellement prévu à 11h45, l'atterrissage est par deux fois repoussé d'un quart d'heure par l'équipage. À 12h15, l'avion n'est toujours pas visible. Quelques heures plus tard, une épave est découverte à 60 km au nord de Colombe-Béchard. Il n'y a pas de survivants. Sous un bout d'aile, un tronc humain décapité est retrouvé. Les photographies et les papiers d'identité extraits des poches de la vareuse permettent d'identifier l'ancien chef de la 2e division blindée. D'emblée, la presse relaie un premier message officiel. L'avion du général Leclerc s'est écrasé contre une colline. Pourtant, les débris sont récupérés à 500 mètres du premier relief. L'hypothèse d'un complot est rapidement échafaudée. Les services secrets soviétiques et britanniques sont accusés. Pourtant, la concentration des débris dément toute explosion en vol. Une minutieuse expertise des moteurs écarte l'idée d'un sabotage. Les conditions météorologiques n'expliquent pas l'accident. La tempête de sable annoncée n'empêche pas l'atterrissage à Colombe-Béchard. Le vol se déroule sans difficulté jusqu'à 11h40, où Deluc décide de décrocher de son altitude de croisière pour se placer à quelques dizaines de mètres au-dessus de la voie ferrée Méditerranée-Niger. C'est, à mon avis, écrira gravement le général René Darnaud de Vitrolles, responsable de l'enquête de commandement, la faute capitale qui est à l'origine de l'accident. Le pilotage est désigné comme coupable. L'enquête livre la cause probable de cette décision, le mauvais équipement radio de l'aérodrome de Colombe-Béchard. En raison des nuages, Deluc est contraint de suivre le radioguidage de la base aérienne pour atterrir. Aussi préfère-t-il se fier aux rails. Or, la descente intervient 20 minutes avant le crash, qu'elle n'explique pas à elle seule. La commission d'enquête en décide autrement. Elle parle d'indiscipline de vol et de faute grave. La clôture d'instruction, c'est-à-dire le rapport d'enquête finale, martèle, il semble qu'influencé par la personnalité du général Leclerc, le lieutenant Deluc ait accepté des risques qu'un pilote aussi confirmé n'aurait jamais dû assumer. Elle souligne deux caractéristiques de l'accident. Fracture de l'avion sur le remblai du chemin de fer et concentration des débris. Elle en ignore trois autres. La ligne téléphonique jouxtant la voie ferrée est demeurée intacte. L'absence de cratère et de labourage du sol. L'avion a frappé le sol perpendiculairement à l'axe du chemin de fer. Ces trois éléments laissent à penser que le B-25 est tombé à plat comme une feuille morte, à faible vitesse, en virant au-dessus des rails. Cette évolution correspond à une chute en vrille qui peut procéder de trois facteurs. Une aggravation des conditions météorologiques, une erreur de pilotage ou un défaut de centrage. L'histoire du bombardier B-25 transportant Leclerc incite à privilégier le troisième. Fin 1946, l'avion est transformé à Casablanca pour servir au transport civil. Armement et plaques de blindage sont ôtées, deux réservoirs ajoutés, une cabine aménagée à l'arrière avec six fauteuils et surtout une couchette dans le poste de mitrailleur de queue. Le centre de gravité de l'avion est alors modifié. Une consigne formelle accompagne la sortie de chantier de l'appareil. Tant au décollage qu'à l'atterrissage, personne ne doit occuper la couchette. Dès lors, un scénario tragique se dessine. La présence ou le déplacement de passagers en queue de l'avion modifie son centrage. Au moment où, volant à vitesse réduite et à basse altitude, il est dans une configuration proche de celle d'un décollage. Le pilote perd le contrôle du B-25 qui part en vrille. Le 2 décembre 1947, les corps des victimes sont transportés par train à Alger. Les 12 cercueils sont ensuite embarqués sur le croiseur Émile Bertin pour rejoindre Toulon 3 jours plus tard. Une grève des cheminots oblige à les transférer à Paris par la route. Le 6 décembre, le cortège funèbre emprunte l'itinéraire par lequel la 2e division blindée s'est infiltrée dans la capitale lors de sa libération. La dépouille de Leclerc est conduite en l'église Saint-Louis des Invalides, où le gouvernement décide de l'inhumer. Charles de Gaulle est le premier à venir se recueillir. Le lendemain, à 10h, le char Alsace emporte les restes du libérateur de Strasbourg à l'Arc de Triomphe, où les anciens de la 2e division blindée, mêlés à des centaines de milliers de Parisiens, lui rendent un dernier hommage. Une foule impressionnante l'accompagne le 8 décembre en la cathédrale Notre-Dame de Paris, où sont célébrées les funérailles en présence des plus hautes autorités de la République. En 1952, Philippe Leclerc de Hautecloque est élevé à titre posthume à la dignité de maréchal de France. Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Nous allons marquer une pause musicale avant la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, c'est Jodassin qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, c'était en 1969, Les Champs-Élysées.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, 2 inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire qui a été préparée par Emmanuel. Et nous commençons par les Templiers. Nous sommes au début du XIVe siècle. Ce sont les tomes 1 et 2 de la dernière livraison de Mireille Calmel aux éditions XO, Le Templier de l'Ombre. Le 12 février 1306, à Razès, Margot va se marier. Son frère André, chevalier de l'ordre du Temple, doit la conduire auprès de Michel, l'homme idéal qu'il a choisi pour elle. Mais tous les deux ont disparu. À elle d'en découvrir la raison dans cette vallée du Razès, vallée des Cathares. Face à elle, un ennemi implacable, un alchimiste qui a commandité la mort de son frère et l'incendie de son château. Et en plus, le 13 octobre 1307, le roi de France Philippe le Bel décrète l'arrestation des Templiers. Le Templier de l'Ombre, ce sont les tomes 1 et 2, c'est signé Mireille Calmel et c'est publié aux éditions XO. Mary de Anne écoute aux éditions Gallimard. Voici la naissance d'un chef-d'œuvre de la littérature fantastique, Frankenstein, ou le Prométhée moderne en 1812. La jeune Mary séjournant en Écosse dans la famille d'Isabella, à peine plus âgée qu'elle. Ensemble, les deux adolescentes parcourent la lande et s'adonnent aux frissons. Les monstres écossais les guettent au détour des landes. Les deux amies s'initient à regarder le monde qui les entoure et apprennent à y déceler désirs et mystères. 4 ans plus tard, Mary est devenue femme et mère et séjourne au bord du lac Léman en compagnie des poètes Percy Shelley et Lord Byron. Recluse en raison des pluies diluviennes, cette petite compagnie sirote du laudanum et s'invente des histoires effrayantes. Dans ce huis clos, le souvenir du voyage en Écosse avec ses monstres va être le déclic du roman mondialement connu de Mary Shelley, publié en 1818. Mary de Anne Écoute, c'est aux éditions Gallimard. Et nous terminons cette chronique par Aysun de Yann Manok aux éditions Albin Michel. En 1930, les Soviétiques lancent une campagne de pacification dans le sud de la Sibérie sur les territoires mongols et Touva pour y éradiquer la culture nomade. Un véritable génocide est lancé dans les steppes de Mongolie, mais face aux communistes, les Mongols vont faire preuve de résistance sur fond de chamanisme. Tsihan et sa fille Aysun sont laissés pour mortes après le massacre de leur campement. Mais 25 ans plus tard, Aysun recroise la route de son bourreau. Aysun, c'est signé Yann Manok, c'est publié aux éditions Albin Michel. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique littéraire. Et nous nous séparons en chanson avec toujours Joe Dassin. C'était en 1975, l'été indien.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Oh,